Alors, bienvenue et nous allons passer un petit moment à regarder un peu plus cette histoire de héros de l'Ancien Testament, ces personnes qui, par leur foi, ont montré leur confiance qu'ils mettaient en Dieu et aussi leur manière de le suivre jour après jour. C'est très important parce que nous voyons dans les évangiles que plusieurs fois Jésus fait référence à ces différentes personnes. Et il va les utiliser parfois pour encourager le peuple d'Israël du premier siècle, parfois pour les défier, et aussi parfois pour appeler les gens à une foi qui est plus importante. Nous allons commencer avec une lecture de notre texte. Ça sera aux Hébreux chapitre 11, et nous allons lire les versets 11 et 12. Donc c'est juste deux petits versets, mais qui parlent de d'une des seules femmes qui est mentionnée dans la liste des Hébreux chapitre 11. Donc Hébreux 11, les versets 11 à 12. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. Nous avons déjà vu que la foi, c'est de croire que le visible vient de ce qui est invisible, du Créateur. Nous avons vu que la foi, c'est aussi, comme chez Abel, c'est de donner à Dieu le mieux qu'on a à travers l'adoration. C'est dans une seule phrase, c'est marcher avec Dieu comme Enoch a fait pendant sa vie. C'est obéir à la parole dans un monde rebelle comme Noé a fait. Et c'est de chercher une ville avec des fondations solides où Dieu est l'architecte comme Abraham a fait. Et dans notre texte, donc, nous voyons ici Sarah qui est utilisée comme exemple de foi dans sa relation avec Abraham. La foi de ces saints peut nous intimider, dans le sens que, par exemple, Abel, Enoch et Noé, ce sont des gens qui peuvent nous effrayer parce que leur foi était si grande et si importante. Abel qui a donné sa vie dans la fidélité. Noé qui a construit une arche pendant une centaine d'années. Abraham qui a quitté tout ce qu'il avait pour aller dans un pays que Dieu lui avait promis. Et donc, nous connaissons ce que ces personnes ont vécu, mais quand nous lisons le passage de l'Ancien Testament, nous sommes de nouveau frappés de la manière que les chrétiens du Nouveau Testament voyaient ces gens de foi de l'Ancien Testament. Parce que quand nous arrivons, par exemple, à Noé ou à Abraham ou à Sarah, ils parlent de leur foi. Mais quand nous lisons Genèse dans l'Ancien Testament, nous voyons leur foi qui est parfois éblouissante et parfois elle est un peu douteuse, si on peut le dire. Et donc, j'aimerais qu'on passe juste un petit moment là-dedans. Il y a quelque chose quand même dans la Bible qui a pu, qui dit que ces gens ont pu croire malgré leur chute, malgré leur incrédulité. L'exemple d'Abraham et de Sarah nous frappe parce que ces exemples se trouvent, c'est des gens qui luttent avec leur foi, mais ils acceptent les promesses de Dieu et ils essaient de marcher selon ces promesses. Et nous voyons que même si Sarah a hésité, parfois, elle a finalement placé sa confiance en Dieu et a démontré cela par la naissance de cet enfant qui s'appelle Isaac. La promesse de Dieu à Abraham est faite au Genèse chapitre 15. Et je l'ai mis ici sur le tableau. Donc, on va juste lire cette promesse parce que vous avez remarqué dans notre texte, en Hébreux 11, le verset 11, il dit « Parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. » Alors, on parle de quelle promesse? Bon, voici, c'est Genèse chapitre 15, les versets 1 à 6. Dieu a dit « Sois sans crainte, Abram. Je suis moi-même ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abram répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. Il ajouta, tu ne m'as pas donné de descendance, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Mais l'Éternel lui adressa la parole et dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il le mena dehors et dit, contemple donc ce ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il ajouta, telle sera ta descendance. Abraham crut en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Alors, ça, c'est la promesse qui est donnée donc 4 ou 5 fois dans l'Ancien Testament. Et selon les coutumes de l'époque, un couple sans enfant devait choisir un serviteur ou esclave préféré ou privilégié de la maison. Ici, nous voyons que c'est Éliézer de Damas qui est né dans la maison d'Abraham, et c'est lui qui allait donc devenir l'héritier parce que Sarah et Abraham n'avaient pas eu d'enfant. Mais Dieu a fait une promesse, et non seulement une promesse, mais il avait fait une alliance avec Abraham. Et par le sacrifice des animaux, par la déclaration de la fidélité de Dieu, Dieu fait une promesse. Et la promesse, c'est qu'Abraham aura une descendance, et vous voyez ce qu'il dit, aussi nombreux que les étoiles dans le ciel et que le sable sur la mer, sur les bords de la mer. Et dans l'histoire d'Abraham, jusqu'à ce point-ci, il n'y a qu'une seule femme dans sa vie. Une seule femme. C'est sa princesse. Okay? Elle s'appelle Sarai. Okay? Et la promesse donnée à Abraham allait s'accomplir à travers elle, à travers Sarai. La promesse est pour elle, même si elle n'est pas présente dans notre texte de Genèse chapitre 15. Il faut savoir que Sarai est déjà très âgée dans notre histoire. Au chapitre 12, donc, de Genèse, elle avait déjà 65 ans. Et le texte des Hébreux 11 dit, « Elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. » Bon, examinons juste un peu cette fidélité. Au Genèse chapitre 16, les versets 1 à 3, nous apprenons que Sarah est misérable. Okay? Elle souffre de dépression. Elle semble être dans un état impossible. Et voici le contexte de la déclaration de Sarah. C'est Genèse chapitre 16, le verset 1 à 2. Sarai n'avait pas donné d'enfant à Abraham. Alors, on va juste s'arrêter là. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a pas mal de femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants. C'est un choix personnel pour pouvoir vivre autre chose, pour être libre, pour poursuivre une carrière, etc., etc. Donc, c'est un choix qui se fait aujourd'hui. Bah, juste pour vous dire, à l'époque, ce n'était pas un choix. Okay? C'était une malédiction de ne pas avoir d'enfants. C'était une manière de perdre tout son sens de raison d'être, parce que le but, c'était de créer une famille, de créer une communion et une communauté dans laquelle on pouvait partager plein de choses. Et c'était ça le rôle, c'était de vivre dans une économie familiale. Et si une femme ne pouvait pas donner donc d'enfants à cette communauté, alors, elle perdait, même si elle travaillait, elle prenait soin de la maison, elle vendait des choses, elle avait un travail à autre. Il y avait quelque chose qui manquait dans cette société. Et donc, nous regardons ici, il dit, Sarai n'avait pas donné d'enfant à Abraham. Et ça, c'est critique pour comprendre ce qui se passe. C'est une femme qui se pose beaucoup de questions et regarde ce qui se passe. Elle avait une servante égyptienne dont le nom était Agar. Sarai dit à Abraham, « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta la voix de Sarai. La situation ici est vraiment tragique. Pendant 10 ans, les deux, Sarai, Abraham et bien sûr toute la maisonnée, avaient erré au Canaan. Et Dieu ne lui avait pas encore donné d'enfant, malgré ses promesses. Et Sarah va plus loin. Elle dit non seulement que Dieu m'a pas donné d'enfant, mais vous avez vu ce qu'elle dit. Elle dit, l'Éternel m'a empêché d'enfanter. M'a empêché. C'est-à-dire, elle voit Dieu comme son ennemi ici. C'est lui qui a fait ce qu'il fait. Et que faire dans une situation pareille? Bon, d'abord, sa foi dans la promesse bascule. Parce que la promesse à Abraham, c'était que la descendance viendrait à travers Sarai. Au lieu de se tourner vers Dieu dans l'espérance, elle tourne vers Dieu pour le blâmer, pour ses malheurs. Et nous comprenons bien cela, parce que parfois, nous aussi, nous pouvons vivre une déception quand Dieu n'agit, il n'agit pas comme on aurait aimé. Nous lisons les psaumes tous les dimanches et nous savons que souvent dans ces psaumes, Dieu n'agit pas comme l'auteur aurait demandé. Donc, elle blâme Dieu. Deuxième chose, elle a cherché une solution dans les normes et les traditions de l'époque, de la société cananéenne. Cela veut dire que si une femme ne pouvait pas avoir un enfant, elle pourrait choisir une servante à elle, une jeune fille, et donc son mari pourrait donc avoir un enfant avec, et le moment que l'enfant est né, l'enfant devient non l'enfant de la servante, mais l'enfant de la femme stérile. C'est un peu une mère porteuse de l'époque, sauf que il faut savoir, Agar n'avait pas de choix. C'est une servante qui est soumise à son maître et à sa maîtresse. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle se tourne, Sarai, vers les coutumes de l'époque plutôt que mettre sa foi en Dieu. Et c'est vu donc comme une situation de mère porteuse. Alors, pour Sarai, elle ne pouvait plus croire à la promesse de Dieu car à 75 ans, elle n'avait jamais eu d'enfant. Et selon les coutumes, elle pouvait avoir un enfant par Agar. Nous comprenons son désir. Il n'existait pas d'in vitro de l'époque. Il n'y avait pas de clinique de procréation assistée. Elle s'est tournée vers les normes de son époque. Son désir est de donner un enfant à Abraham, c'est de avoir une famille, c'est d'accomplir les promesses de Dieu, mais de sa manière, la promesse de Dieu. Mais la manière d'arriver à cette fin ne correspondait pas du tout à la promesse ni à la volonté de Dieu. Et il est important pour nous de comprendre, la foi ne dit pas quelles sont les normes de la société, quelles sont les traditions acceptées autour de moi. Plutôt, la foi dirait quelque chose comme ceci. Comment puis-je grandir dans ma confiance en Dieu dans cette situation? Que faut-il que je change dans ma pensée pour être conforme aux promesses de Dieu? Et donc, vous voyez, il y a une promesse de Dieu. Sarai aurait un enfant. Et au lieu de continuer, je sais que ça fait déjà 10 ans hein, qu'elle fait confiance, mais au lieu de continuer encore pour 5 ans encore, elle regarde autour d'elle et elle choisit de suivre les coutumes de la société païenne, c'est-à-dire des Cananéens. Et donc, elle donne Agar. Et vous savez que ça a causé pas mal de problèmes. Vous êtes au courant de cela. Deuxième chose que nous voyons, Agar, l'esclave de Sarai, tombe enceinte. Et au lieu d'être heureuse, Sarai est jalouse et désire bannir cette servante de sa maison, parce qu'elle a un regard hautain envers Sarah. Et voici, c'est le texte, c'est de nouveau au chapitre 16, ce sont les versets 5 à 6. Okay? Genèse chapitre 16, les versets 5 à 6. Alors Sarah dit à Abraham, « L'outrage qui m'est fait retombe sur moi. C'est moi-même qui ai mis ma servante dans ton sein. » Elle parle à Abraham. « Et maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris. que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Abraham répondit à Sarai, ta servante est entre tes mains. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar prit la fuite loin d'elle. Alors, vous voyez cette relation, comment cela se passe. Vous voyez qu'elle dit, c'est ta faute. Okay? C'est ta faute, elle dit à Abraham. C'est toi qui nous as mis dans cette difficulté. Vous savez que dans cette relation, c'est toujours Abraham qui a le dernier mot. Il dit, oui chérie, n'est-ce pas? Elle dit, tu as fait comme cela, regarde ce qui se passe, Agar est dans cette situation. Et Abraham dit, écoute, tu fais ce que tu veux avec elle, c'est ta servante. Et donc, elle décide de maltraiter Agar. Puisque la foi lui manquait, elle commençait à blâmer les autres. Elle a déjà blâmé Dieu, elle blâme son mari. Et soyons clairs, Abraham n'est pas innocent dans cette affaire. Sarai n'a pas agi comme elle aurait dû, mais son désespoir et son manque de foi l'amenaient à blâmer la personne qu'elle aimait. Et blâmer n'est pas un signe de foi. C'est plutôt la foi grandissante qui cherchera à amener les autres à une confiance plus profonde en Dieu. Et quand sa foi commence à basculer, elle blâme son mari et lui aussi, il trébuche et il tombe. S'il y a quelque chose que j'aurais dû changer et que je dois changer, c'est la tendance de trouver un coupable pour les choses qui ne vont pas, de désigner le blâme. Je crois que c'est essentiel de faire face à nos erreurs plutôt que de blâmer les autres pour les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Mais le blâme n'est pas ici un bon substitut à la foi. Il ne nous mène pas à plus de confiance et peut même déchirer les relations. Et la famille d'Abraham sera déchirée à cause de cela. Parfois, nos sentiments peuvent cacher notre foi, et c'est le cas ici. Je dirais même que souvent, nous devons gérer nos sentiments pour que nous vivions avec une foi grandissante. Ce n'est pas nos feelings, nos sentiments qui doivent nous guider dans la lutte. C'est plutôt la parole de Dieu et ses promesses qui nous guident. Et après, nous examinons nos sentiments pour les aligner à ce que Dieu a dit. Donc, Sarai devait avoir une foi plus grande que la pression des normes ou des coutumes environnants. Elle devait aussi apprendre à avoir une foi plus grande que ses sentiments. Et ce sont deux choses que nous voyons rapidement. Okay? La foi plus grande que ce que les autres font, la société, et la foi plus grande que les sentiments ou ses sentiments de blâme. Et puis, il y a ses propres doutes. Il y a une histoire magnifique dans Genèse chapitre 17, je crois, où il y a Dieu qui vient avec deux hommes ou deux anges visiter Abraham. Et donc, regardons ce passage. Alors, les trois lui dirent, donc à Abraham, « Où est ta femme Sarah ?» Et notons bien, c'est Sarah, okay, et plus Sarai, parce que Sarah veut dire princesse de beaucoup, grande princesse, et Sarai, c'était juste ma princesse. Okay? Donc, elle devient une princesse pour tous. « Où est ta femme Sarah ?» Abraham répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Assurément, je reviendrai vers toi l'année prochaine. » Et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis usée, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien que soit étonnant de la part de l'Éternel? L'année prochaine, du temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. » Donc il répète une deuxième fois. Sarah mentit. « Je n'ai pas ri, dit-elle. » car elle éprouvait de la crainte. Mais il dit, si, tu as ri. Bon, quand elle entend cette nouvelle, elle rit, et nous comprenons, elle a 90 ans. Comment est-ce qu'elle se décrit? Bon, usée, elle dit. Est-ce que j'aurais des désirs? Elle dit, bon, elle en a plus à ce moment-là. Et ça fait un moment qu'elle a reçu la promesse et rien n'avait changé. Et maintenant, ce n'est pas seulement elle qui est incapable d'enfanter, mais aussi Abraham. Il est vieux. Même c'est la phrase qu'on dit, nous, il est vieux. Mon Seigneur est vieux, elle dit. Et c'est-à-dire que c'est physiquement impossible pour lui de faire un enfant. Les doutes sont plus grands que la foi. Et nous comprenons. Ah, je suis allé sur le web essayer de chercher qui est la personne la plus âgée, la femme la plus âgée d'avoir un enfant qui est donc certifié. Parce qu'on a trouvé, il y a plein de choses qui sont là et puis ça ne va pas être le cas. Mais je suis allé à cette source de Guinness, donc il y a les records du monde. Et c'est une femme, qui est née en 1940, qu'à l'âge de 66 ans et 358 jours, a eu un petit enfant à Barcelone, en Espagne. Elle est décédée malheureusement 3 ans plus tard, après la naissance de cet enfant. Elle a reçu donc aux États-Unis un traitement de fertilité là-bas en mentant. Elle avait dit qu'elle n'avait pas 66 ans, mais qu'elle n'avait que 55. Et c'est la femme la plus âgée qui a eu. Donc, vous vous rendez compte, une femme donc, de 66 ans qui n'a jamais eu d'enfant, disons qui aura un enfant à cet âge-là. Je ne sais pas si elle avait eu des enfants avant, mais elle a eu un enfant à cet âge-là. Et maintenant, nous avons Sarah. Elle a 90 ans. Elle n'a jamais eu d'enfant. Et ces doutes qu'elle a sont tout à fait compréhensibles. Mais ces doutes vont étouffer sa foi. Elle ne peut qu'en rire et d'en sentir coupable après, parce qu'elle ment pour se protéger. La foi en Dieu n'est pas croire en ce qui n'est pas vrai, mais parfois c'est croire même quand les preuves semblent démontrer l'opposé, autre chose. C'est croire finalement à ce que Dieu a dit clairement, ce qu'il a prononcé, ce qu'il a promis. Puis on pourrait blâmer Sarah, mais vous savez, Thomas, il a dit, tout le monde a dit, Jésus a dit que je vais ressusciter. Les disciples ont dit, on a vu Jésus ressusciter. Et il dit, je croirai quand je vois. C'est Étienne qui, lui, accepte la mort en face de ses ennemis et les bénit plutôt que les maudire. Ça, c'est la foi contre toutes les circonstances et toutes les preuves. C'est les gens d'Athènes qui croient malgré les moqueries, comme Paul parle de la résurrection d'entre les morts. Et donc, nous voyons qu'elle a de la peine à accepter la parole de Dieu quand les preuves autour d'elle, les faits semblent dire autre chose. Donc, elle doit croire malgré les normes de la société. Elle doit croire malgré ses sentiments et elle doit croire aussi malgré les faits qui semblent être contre les promesses de Dieu. Et moi, je crois qu'il y a plusieurs choses que nous apprenons dans ce passage. Première chose, c'est de ne pas oublier combien Dieu est grand. Il est grand. Ici, dans notre texte que nous avons lu, dans Genèse, « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. » Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et quand nous croyons en un Dieu qui est grand, notre foi peut être petite. Si nous croyons en un Dieu qui est grand, nous pouvons avoir une foi qui est petite et Dieu écoute notre prière. Nous voyons aussi que nous ne sommes pas seuls dans notre foi. Quand Abraham et Sarah, les deux, ont cru, ils ont pu se soutenir l'un l'autre pour aller plus loin dans leur foi. Il faut deux pour faire un bébé. Donc, il fallait deux qui devaient croire. Et les deux ensemble, en mettant leur foi ensemble, ont pu produire une descendance avec l'aide de Dieu. Donc, nous ne devons pas oublier combien est grand notre Dieu. Nous ne devons pas oublier d'être à deux ou à trois ou d'être une communauté nous aide à vivre dans la foi. Et puis, nous voyons, surtout dans l'histoire de Sarah, nous voyons que la foi implique une patience qui est longue. Une patience qui est longue. Elle a dû attendre des années et des années avant de tenir un fils entre ses bras. Un fils venu de Dieu, un fils venu de sa relation avec son mari Abraham. Et vous savez quel nom ils lui ont donné, n'est-ce pas? Ils lui ont donné le nom Isaac. Et vous savez que Isaac veut dire il rit. Il rit. Et cet enfant, donc, est devenu une source de joie parce qu'il a amené le rire dans la maison. Mais aussi, c'est un rappel de quelques doutes que Abraham et Sarah ont eu quand ils ont entendu ce que Dieu allait faire pour eux. C'est un rappel de manque de croyance, mais aussi du fait que Dieu les a bénis à travers cet enfant. Et peut-être la chose la plus importante que j'aimerais que vous voyez, c'est que Dieu ne voit pas les gens comme nous voyons les gens. On dirait, quand nous lisons l'histoire de Sarah, qu'elle n'a que peu de foi. Mais elle devient un exemple de foi parce que Dieu ne voit pas les choses comme nous voyons les choses. On dirait qu'elle a peu de foi. Il y a Agar, elle a chassé Agar, elle a ri devant les messagers. Mais nous apprenons qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Et grâce à sa foi, de descendance sans nombre, sans pouvoir les compter, sont venus dans ce monde, d'abord comme des enfants d'Abraham, et finalement comme des enfants d'Abraham par la foi, c'est-à-dire vous et moi. Donc attention quand nous jugeons la foi d'autres personnes, parce que quand Dieu regarde la foi d'un individu, il ne voit pas la même chose que nous. Il voit Sarah dans sa foi et dans son engagement, plutôt que dans toutes ses faiblesses. Et quand vous vous sentez découragé, n'oubliez pas que vous avez un grand Dieu, que vous avez une communauté de foi qui peut vous aider, que vous avez aussi besoin de patience, mais que Dieu, il vous encourage en vous regardant et en disant, restez avec moi, continuez avec moi, parce qu'en faisant ainsi, vous allez donc arriver à ce que nous cherchons.